Bonjour à tous. Washington annonce le début du D-Day économique contre l'Iran. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent promet de tout dévoiler cet après-midi. Je cite les sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays.
Le chef du Mossad, Roman Goffman, aurait rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères après la frappe menée par Israël la semaine dernière en Syrie. Le Hamas multiplie, lui, l'envoi des cerfs-volants en direction d'Israël. Le Premier ministre Netanyahu ordonne ainsi une intensification des éliminations ciblées contre les terroristes de la bande de Gaza.
Et enfin, en Belgique, week-end violent à Anderlecht et à Saint-Gilles avec fusillades et voitures incendiées. Face à ces violences, le ministre-président Boris Dilies promet « on n'abandonnera jamais Bruxelles ».
Washington s'apprête à ouvrir un nouveau front contre l'Iran, cette fois sur le terrain économique. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, promet de dévoiler ce lundi ce qu'il présente comme les sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays.
L'objectif est clair, couper les principales sources de revenus du régime iranien et isoler tous ceux qui continueraient à commercer avec lui. Ceux qui craignent le danger de défier Téhéran ne devraient pas sous-estimer le coût de défier Washington, a averti Scott Bessent. Le secteur pétrolier devrait être au cœur de cette offensive, mais les entreprises, les banques et les pays qui facilitent les transactions iraniennes pourraient également être visés. Les détails seront présentés à 14h, heure de Washington aujourd'hui, 20h à Bruxelles, 21h en Israël. Cette offensive intervient alors que le rial iranien poursuit sa chute. Il s'échange 1 dollar contre 2 millions de rials aujourd'hui sur la chaîne CNBC. Jeudi dernier, Scott Bessent avait déjà déclaré « Nous allons faire s'effondrer le régime iranien », ajoutant « Il est temps pour nos alliés et pour le reste du monde de prendre une décision. Nous allons écraser l'économie de ce régime ».
La télévision d'État iranienne a diffusé une vidéo particulièrement menaçante visant Baron Trump, le fils du président américain.
Selon Iran International, la séquence évoque une récompense de 10 millions de dollars et prétend détailler les habitudes du jeune homme, ses déplacements, ses activités en ligne et même son dispositif de protection. La vidéo affirme avoir identifié certains de ses comptes sur les réseaux et plusieurs personnes de son entourage. Ces prétendues informations de propagande iranienne n'ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante. Il s'agit malgré tout d'une nouvelle escalade dans la rhétorique hostile de Téhéran contre Donald Trump et sa famille. Une vidéo similaire avait déjà visé Melania Trump en désignant les boutiques new-yorkaises qu'elle fréquenterait comme des cibles potentielles. Elle se terminait déjà par un avertissement adressé à Baron Trump. Le chef du Mossad, Roman Goffman, aurait rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères hier après la frappe menée la semaine dernière par Israël en Syrie.
C'est ce que révèle en effet le site d'information américain Axios, une rencontre qui a eu lieu hier, confirmée d'ailleurs ce matin par les bureaux de la diplomatie syrienne. Les discussions ont porté sur l'élaboration de mécanismes concrets pour mettre fin aux attaques, arrestations et assassinats perpétrés par Israël, ainsi que la relance du dialogue en vue de parvenir à un accord de sécurité pouvant servir de base à un accord plus global ultérieur, ont affirmé les services des affaires étrangères de Damas. En revanche, silence radio du côté des bureaux du Premier ministre israélien.
La Syrie espérait une reprise prochaine des négociations avec Israël autour d'un accord de sécurité.
C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie syrienne Assad al-Shabani, qui a indiqué dans le même temps espérer que ces négociations aboutiront au retrait d'Israël du territoire syrien. Nous pensons qu'il devrait y avoir des contacts, surtout avec une partie qui menace constamment la sécurité de la Syrie. Mais si ces contacts ne donnent rien, alors ils ne nous sont d'aucune utilité, a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, qui ajoute n'avoir aucune confiance, je cite, pour le moment, envers les dirigeants de l'État d'Israël.
Tom Barak revient timidement sur ses déclarations concernant une occupation israélienne, je cite, sur le plateau du Golan.
La politique des États-Unis concernant le Golan a été définie par le président Trump en 2019 et reste inchangée, a-t-il déclaré dans un communiqué publié par l'agence de presse AP. L'ambassadeur des États-Unis en Turquie, envoyé spécial en Syrie, avait déclaré vendredi lors d'un entretien avec l'entrepreneur libano-australien Maron Nofal qu'Israël occupait toujours le Golan en contradiction avec les résolutions de l'ONU contre tout l'ordre international qui a déclaré que le Golan appartenait à la Syrie. Il déclarait une déclaration qui va à l'encontre de la décision prise par le président Trump en 2019 de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan.
Et toujours à propos du Golan, le Hezbollah cherche à faire passer des armes de Syrie vers le Liban.
L'appareil de défense israélien a récemment constaté une augmentation des tentatives du Hezbollah de faire passer clandestinement des armes de Syrie vers le Liban, alors que le groupe terroriste s'efforce de se réarmer, de se reconstruire sous le couvert du cessez-le-feu en vigueur. Selon la chaîne 12, l'Iran finance et gère le réseau de contrebande par le biais de la force Quds du corps des gardiens de la révolution en Iran, qui continue de superviser le transfert d'armes entre les mains du Hezbollah, affirme un responsable sécuritaire israélien qui indique dans le même temps que les services de renseignement du pays ont détecté plusieurs cargaisons d'armes circulant entre la Syrie et le Liban.
Jared Kushner adresse un avertissement ferme au Hamas.
Selon la chaîne israélienne N12, l'émissaire du président américain Jared Kushner aurait adressé un avertissement clair au chef du Hamas Khalil al-Haya lors de leur rencontre, c'était la semaine dernière. Toute tentative de violer les accords conclus ou de dissimuler des armes entraînera l'arrêt du processus politique et laissera à Israël une totale liberté d'action, aurait déclaré l'émissaire américain au chef terroriste. Un avertissement émis suite à des renseignements obtenus par les États-Unis, selon lesquels certains éléments du Hamas prévoyaient de ne pas respecter leurs engagements de déposer leurs armes et de poursuivre le processus de reconstruction de leur capacité militaire. Au cours de la rencontre, Jared Kushner a précisé au chef terroriste: si vous essayez de tricher, le processus s'arrêtera et personne ne se mettra en travers du chemin d'Israël, a-t-il déclaré en présence de l'ensemble des médiateurs.
Le Hamas minimise la menace de l'envoi des cerfs-volants vers Israël.
Les cerfs-volants sont des jouets pour enfants, rien de plus, a affirmé le porte-parole du Hamas. Une déclaration qui intervient après les menaces émises par le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense israélien Israël Katz d'intensifier ses frappes contre les commanditaires des envois de cerfs-volants vers le territoire israélien. Ces menaces reposent sur des prétextes fallacieux et visent à justifier la poursuite de l'agression. Nous appelons l'administration américaine, les pays médiateurs et le Conseil de la paix à y mettre fin, déclarait le responsable terroriste. Israël a ordonné une intensification des éliminations ciblées dans la bande de Gaza contre les terroristes impliqués dans le massacre du 7 octobre suite à l'envoi de ces cerfs-volants vers le pays. On en a parlé à 8h30 avec Stéphane Goldin.
Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou réclame à son appareil de défense de tout mettre en œuvre pour contrer la menace des drones du Hamas et du Hezbollah.
Nous travaillons depuis plusieurs années à trouver une solution à la menace des drones. Nous sommes les plus avancés au monde, mais il s'agit d'un problème mondial, a déclaré Benjamin Netanyahou dans un message vidéo, ajoutant au passage que ces armes sont utilisées en Ukraine et sur le front libanais. Le Premier ministre a lié la menace des drones avec l'envoi par le Hamas des cerfs-volants observés ces derniers jours vers les localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza. Selon certains responsables sécuritaires israéliens, le Hamas aurait sûrement plusieurs drones à fibre optique utilisés par le Hezbollah au sud Liban et qui portent sérieusement atteinte aux forces de Tzal positionnées dans ce secteur. Ma directive aux forces de défense et à Tzal est de tout faire contre cette arme mortelle, la frapper, frapper ceux qui l'utilisent, frapper le lieu de son lancement, tout faire pour protéger nos citoyens dans la communauté, dans les communautés frontalières de Gaza et partout ailleurs, a déclaré Benjamin Netanyahou. Et justement, face à la menace des drones, une petite entreprise américaine veut rendre la défense aérienne beaucoup moins coûteuse.
Oui, c'est la start-up Powerus, installée en Floride, qui développe le Guardian, un drone intercepteur vendu environ 5 000 $, soit une fraction seulement du prix du missile de défense traditionnel. Il est produit notamment dans une usine aux Émirats Arabes Unis et pourrait atteindre 340 km/h et opérer dans un rayon de 15 km. Powerus affirme fabriquer actuellement 3 000 intercepteurs par mois et espère en produire 15 000 d'ici au milieu de l'année 2027. Le Guardian s'inspire de technologies développées en Ukraine pour neutraliser les drones suicides de la Russie. Mais attention, il est conçu pour abattre des drones légers, pas des missiles balistiques. Powerus vient par ailleurs de décrocher un contrat de plus de 22 millions de dollars pour protéger des installations pétrolières et gazières au Moyen-Orient. Tzal construit 6 nouvelles bases inspirées des enseignements du 7 octobre.
Tzal prépare une profonde transformation de ses centres d'entraînement. 6 nouvelles bases seront en effet construites pour les brigades Kfir, Nahal et Givati. Le projet, directement inspiré des enseignements du 7 octobre, est censé mieux préparer les combattants aux conflits futurs et aux situations extrêmes. Tout l'environnement de formation va changer, assure un haut responsable du ministère de la Défense. Les nouvelles bases disposeront ainsi de technologies avancées, de simulateurs, d'installations mieux adaptées. Les logements seront également modernisés avec de vrais efforts sur les lits, les sanitaires, l'eau chaude, les espaces ombragés et les prises destinées aux appareils colonies mobiles. Les soldats vont être contents. L'objectif est aussi de mettre fin aux kilomètres parcourus inutilement par les militaires. Dans les bases des brigades blindées, les centres couverts d'entretien des chars seront installés près des logements, alors qu'ils pouvaient auparavant se trouver à plusieurs kilomètres. Des voies d'accès direct permettront aux chars et aux véhicules blindés Namer de rejoindre rapidement les zones d'exercice. La sécurité constitue enfin l'un des principaux enseignements du 7 octobre. Après les infiltrations du Hamas dans plusieurs bases du pays, les plans ont été revus pour renforcer les clôtures, les murs, les barrières et les espaces protégés. Les infrastructures essentielles seront également sécurisées afin que ces bases puissent continuer à fonctionner même en cas d'attaque. La campagne pour l'élection présidentielle 2027 en France a connu de nouveaux rebondissements. Raphaël Glucksmann a annoncé sa candidature dimanche soir et Jean-Luc Mélenchon progresse alors que les universités d'été du parti LFI ont connu un franc succès ce week-end.
La bataille pour le leadership de la gauche s'intensifie. Raphaël Glucksmann a officialisé hier soir sa candidature, tandis qu'un nouveau sondage place Jean-Luc Mélenchon en position de se qualifier pour le second tour, même si toutes les configurations le donnent perdant. Ensuite, le leader de place publique entend incarner une alternative social-démocrate à la France insoumise. Marine Le Pen reste cependant très largement en tête des sondages avec 35 à 38% des intentions de vote. Elle l'emporterait dans toutes les hypothèses face à Mélenchon, Gabriel Attal, mais aussi face à Édouard Philippe. En Belgique, à Bruxelles, week-end violent à Anderlecht et à Saint-Gilles avec fusillades et voitures incendiées, pas de blessés. Une première fusillade a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Puis deux voitures ont été incendiées, des incendies que le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, qualifie de volontaires. C'est de la dissuasion entre bandes rivales. Pour finir, il y avait eu déjà l'attaque contre le commissariat d'Anderlecht vendredi. Des impacts de balles avaient été constatés sur le bâtiment. Personne n'avait été blessé. Deux suspects se sont enfuis en trottinette.
Face à cette escalade, le ministre président bruxellois Boris Dilliès a dénoncé une violence, je cite, « aveugle » et a promis « on n'abandonnera jamais Bruxelles ».
Il a assuré avoir été informé des questions liées à la sécurité et avoir suivi la situation de près. Boris Dilliès a rappelé plusieurs mesures prises au niveau régional. Un commissaire aux drogues doit être recruté à la fin du mois de septembre et sera chargé de mener une stratégie globale avec la police et les communes bruxelloises. Il a également cité un budget régional de 68 millions d'euros consacré à la sécurité et à la prévention, ainsi que l'interdiction des trottinettes électriques partagées. Bernard Quintin s'était dit samedi choqué et avait condamné l'attaque inacceptable contre le commissariat d'Anderlecht. Vu la situation dont nous avons hérité, ce combat prendra du temps, a déclaré Boris Dilliès. Il a poursuivi que cela sera la lutte sera intensifiée sans relâche. On n'abandonnera jamais Bruxelles, a-t-il conclu.
C'est la rentrée ce lundi en Fédération Wallonie-Bruxelles avec un changement majeur, l'arrivée du tronc commun en première secondaire.
Oui, une révolution. Après 7 semaines de pause estivale, les près de 900 000 élèves de Wallonie et de Bruxelles et leurs 120 000 enseignants retrouvent progressivement à partir d'aujourd'hui le chemin de l'école. Désormais, tous les élèves suivront le même parcours jusqu'à la troisième secondaire, quel que soit leur établissement ou leur réseau. Concrètement, les options disparaissent en première secondaire. La grille horaire devient identique pour tous, à l'exception des cours de philosophie. Le programme renforce notamment le français, les mathématiques, les langues modernes, les sciences, mais aussi le numérique et les apprentissages techniques. Deux journées de découverte des métiers seront également organisées. L'objectif affiché est de retarder l'orientation vers les différentes filières et de réduire les inégalités entre les élèves.
Et cette rentrée des classes intervient dans un contexte social toujours marqué par la vive opposition des enseignants contre les différentes mesures d'économie adoptées en juin dernier par le gouvernement MR engagé.
Les syndicats ont d'ailleurs émis un préavis d'action jusqu'à la fin du mois de septembre pour couvrir toutes les expressions de mécontentement. Contrairement à une tradition bien établie, la ministre de l'Éducation Valérie Blatini n'a pas prévu de descendre sur le terrain à l'occasion de la rentrée. Pas non plus de visite pour la ministre-présidente Elisabeth De Grise. Ce retour à l'école est marqué par l'entrée en vigueur d'une batterie de mesures décidées par le gouvernement, notamment la décision d'augmenter la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur de 10% sans augmentation de salaire. D'où notre question du jour pour demain. Rentrée scolaire, un bras de fer est-il à prévoir entre syndicats et ministres ?
En Belgique, ChatGPT est de moins en moins utilisé comme un simple collègue virtuel. À l'été 2024, près d'un message sur deux concernait encore le travail. Deux ans plus tard, cette proportion est tombée à un peu plus d'un sur quatre.
Oui, aujourd'hui, les Belges sollicitent surtout ChatGPT pour obtenir des conseils pratiques. Cette catégorie représente plus de 36% des échanges et recouvre des usages très variés. Apprendre quelque chose, résoudre un problème concret, trouver des idées ou poser des questions sur la santé et le bien-être. Dans le cadre professionnel, ChatGPT reste avant tout un outil d'écriture. Plus de 4 messages sur 10 servent à corriger, reformuler, résumer ou traduire des textes. Mais cette baisse en proportion ne signifie pas que les Belges travaillent moins avec ChatGPT. OpenAI ne publie pas ici le nombre total de messages. Les usages professionnels peuvent donc continuer à progresser. Simplement, ils progressent moins vite que l'usage personnel. Devenu viral en Angleterre et en Irlande, un défi sur TikTok consistant à rouler à contresens sur l'autoroute a déjà provoqué la mort de 12 personnes en quelques jours, déclenchant une vive polémique autour de ce réseau social.
Le boycott néerlandais de l'Eurovision pourrait n'avoir duré qu'un an.
Après avoir quitté l'édition 2026 en raison de la participation d'Israël, les Pays-Bas s'apprêteraient à revenir au concours 2027 en Bulgarie. Les experts affirment que la décision a déjà été prise en coulisses. Le diffuseur néerlandais n'a encore rien officialisé, mais il semble que la représentante pour le pays ait déjà été choisie. Il s'agit de Davina Michel, 30 ans, bien connue du public et des amateurs de l'Eurovision.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que des élections en temps de guerre seraient un danger pour le pays après l'appel controversé de son ex-ministre de la Défense à ouvrir la voie à la tenue d'un scrutin.
Je pense que dans une guerre comme celle-ci, des élections en tant que telles sont un risque énorme, a affirmé Volodymyr Zelensky, estimant qu'elle serait un tsunami qui fracturerait l'Ukraine. Le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky a expiré en mai 2024, mais aucun scrutin ne peut être organisé en Ukraine sous la loi martiale en vigueur depuis février 2022. Selon les derniers sondages d'opinion de l'Institut de sociologie de Kiev, seuls 15% des personnes interrogées estiment effectivement que des élections devraient avoir lieu avant la fin de la guerre. Conflit russo-ukrainien, un train de passagers en Ukraine a été touché par un drone russe alors qu'il circulait vers Odessa. Aucun des près de 600 passagers n'a été blessé.